Sara Creta est une journaliste italienne. Elle a travaillé pour Al Jazeera et a co-réalisé une série documentaire sur les migrations en Méditerranée pour la télévision norvégienne. Elle a également travaillé pour la RAI, la télévision italienne, et pour l'AFP Vidéo, notamment à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Elle s'est rendue plusieurs fois au Bangladesh, en RDC, République démocratique du Congo, ou encore au Tchad, au Cameroun, au Maroc et en Libye, ainsi que dans la bande de Gaza et sur un bateau de sauvetage en Méditerranée. Elle écrit régulièrement pour La Repubblica des sujets sur les droits de l'homme et les crises humanitaires. Elle proposait dans le cadre de la 29e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société qui s'est déroulé à Douai du 31 mai au 5 juin, Libye, les centres de la honte, qui trace le portrait de migrants venus de toute l'Afrique, parqués dans des centres de détention aux conditions inhumaines, dans l'attente que l'Europe et l'ONU statuent sur leur sort. État sanitaire déplorable et surpopulation, travail forcé, torture, viol, meurtre, enlèvement avec demande de rançon ou famille restée au pays ou vivant à l'étranger, officiellement tenu par le gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, ces camps sont en réalité entre les mains des milices corrompues qui contrôlent le pays, et pour elles, les migrants représentent avant tout une manne financière. Entretien avec la réalisatrice, illustré par des extraits de la bande-annonce.
The smuggler who was taking us to Tripoli is the one who sent us to Malaysia.
Every day you will be tortured. This life is difficult. A group of people, you can survive. But one person as two persons, they cannot.
Sara Creta, félicitations d'abord pour votre documentaire. On prend ça comme un véritable coup de poing. J'étais un peu perdu parce qu'on sent toute la complexité de la chose en fait quand on voit ce documentaire. Alors, la première question qui me semble évidente, est-ce que ça a été compliqué pour ce documentaire? Et quand est-ce que vous l'avez commencé et quand est-ce que vous l'avez terminé?
Oui, je crois que en fait, comme tous les projets des documentaires et surtout ce genre de projets dans des zones de conflit, c'est des projets où c'était pas vraiment mêlé dans les contextes locaux, c'est impossible de le pouvoir faire. Et le fait d'avoir travaillé en Libye à plusieurs reprises, d'être aussi parti en Libye pour suivre la guerre civile, donc j'avais vraiment des très bons contacts sur place. Et je savais un peu la façon aussi dans laquelle les Libyens, ils voient, non, les journalistes, après 42 ans de dictature sur Gaddafi, c'est pas facile d'être considéré un journaliste libre, indépendant en Libye. Donc il y avait toujours cette méfiance. Donc d'abord, il faudrait créer des liens, il faudrait créer des relations, et c'est ça en fait que ça prend beaucoup de temps. Cet documentaire, nous avons commencé à le filmer. Moi, je suis partie toute seule en Libye en décembre 2019 et après en 2020. Et en fait, c'était à plusieurs reprises que parfois j'étais là-bas en train d'enquêter sur la question des violations dans les centres de détention. Donc, c'était vraiment un travail d'investigation. Et parfois, j'étais avec ma caméra, donc c'était plutôt pouvoir filmer et imagine pour sortir avec les gardes-côtes libyens, une journée avec eux en mer. Et moi, je crois d'être la seule journaliste d'avoir pu partir avec eux en 2021. Cette autorisation, il a pris des mois et des mois, genre 7 ou 8 mois, pour pouvoir rester avec eux une journée. Alors que les gardes-côtes libyens sont équipés par l'Europe, ils sont financés par l'Europe et par les pays européens, alors que c'est nos droits comme citoyens européens de pouvoir enquêter sur comment l'argent européen est utilisé. Et en fait, oui, mon travail, c'était plutôt un travail de terrain. Ce genre de film, tu ne peux pas le faire si tu n'étais pas en Libye avant ou si tu n'as pas des contacts solides. Et surtout, ces endroits, ces centres, ces prisons, c'est des lieux d'ombre. ou notamment nos politiciens, les politiques européennes, ils veulent cacher ce sort des gens. Et...
Il y a une omerta, quoi.
Oui, donc pourquoi faire rentrer un journaliste là-dedans, tu vois. Et en fait, même autour de ça, je pense qu'il faut réfléchir à la façon dans laquelle on filme et on met ça en image. Le fait, par exemple, d'avoir l'accès à ces zones d'ombre et à ces centres où la torture, l'esclavage est pratiqué, quand tu ramènes ta caméra, tout change. Là, tout d'un coup, on commence à donner la nourriture, on commence à te montrer qu'on gère bien la situation. Donc, il y a une sorte de théâtralité, en fait, des acteurs qui sont là. Et je pense que ça aussi, c'est intéressant en termes de... Quand on cherche d'un côté d'avoir un langage politique, de l'autre côté d'avoir un langage éthique, mais aussi en image, et qu'est-ce qu'on va montrer, comment on va le montrer et pour quelles raisons on va le montrer. Et donc, je pense que l'idée, c'était vraiment d'avoir ce côté narrative officiel. Donc la narrative de l'Union européenne, la narrative de cette conférence où on n'a pas le droit de demander, de faire des questions. Et après, c'est la voix des migrants. Donc c'est cette narrative parallèle où chacun, il ne veut pas s'assumer. Il ne veut pas assumer ses responsabilités. Donc c'est toujours les autres, c'est toujours la faute des autres. Pour les Nations Unies, c'est la faute des Libyens qu'ils cachent les armes. Pour les Libyens, c'est la faute des Nations Unies qu'ils sont pas en train d'évacuer les migrants. Et pour les migrants, en fait, ils deviennent les victimes de ce système. Ils sont aussi cette voix courageuse, en fait, qui lutte et qui cherche de montrer leur corps et leur voix à travers les vidéos, les manifs qu'ils organisent. Et donc, c'est notamment ça que je cherchais de faire.
Votre documentaire s'appelle « Libye, les camps de la honte ». Et nous, en tant que spectateurs, ben, on la ressent vraiment, cette honte. Donc, le message passe très fort. Et en même temps, on ressent une sorte de culpabilité. Parce qu'à notre niveau, on se demande ce qu'on peut faire, en fait, finalement. On est spectateur et en même temps, on se prend ça en pleine figure. Alors, pour recontextualiser, évidemment, votre documentaire raconte le parcours de migrants qui viennent de pays qui, généralement, viennent d'Afrique et qui recherchent l'Europe. Ils viennent de où exactement, ces migrants? Quels pays sont les plus représentés pour cette traversée, on va dire?
Il y a plusieurs pays, plusieurs personnes, plusieurs histoires, plusieurs trajectoires. On peut dire que la plupart, c'est des gens qui viennent de l'Afrique de l'Est. Donc, Éthiopie, Érythrée, Soudan, Somalia, c'est des pays qui sont en guerre ou qui sont en conflit, où il y a des dictatures depuis longtemps. En Érythrée, par exemple, il n'y a jamais eu des élections. Et au Soudan, aujourd'hui, il y a une transition démocratique menée par des militaires, donc ce n'est pas vraiment une transition démocratique. Et la Somalie aussi est en conflit depuis des années. Donc, c'est des pays déchirés par les conflits. Et de l'autre côté aussi, des pays comme la Nigeria, où en fait, on prend le pétrole de chez eux, mais on ne veut pas prendre les migrants. Donc il y a aussi cette question, on continue à mener cette politique envers l'Afrique, d'essayer de prendre les ressources naturelles. Et donc après, ces gens, ils sont obligés aussi à quitter le pays pour des raisons économiques. Mais après, on les considère des migrants économiques, on ne les considère pas des réfugiés. Donc, tu vois aussi comme les mots, en fait, ils sont créés pour notamment diviser l'opinion publique envers qui on doit aider et qui n'a pas le droit d'être aidé, pourquoi en fait, ils viennent d'un des pays sûrs. Alors qu'aujourd'hui, quand tu gagnes $1 par jour, où il y a, pas d'électricité ou... d'autres problèmes de sécurité, comme peut-être au Ghana ou au Nigeria, on considère ces pays des pays sûrs, alors qu'il y a énormément de jeunes qui quittent ces pays-là, pourquoi en fait ils n'ont pas d'alternative. Ils n'ont pas la possibilité de demander un visa et de venir en Europe avec un avion. Ils sont obligés en fait de payer des passeurs et d'enrichir ces mafias pour pouvoir sortir, pour pouvoir voyager. Alors que voyager doit être le droit primordial, non? Depuis que l'homme est là, il voyage. Et donc, je crois aussi qu'il faut interroger ces pratiques, tu vois, des visas, des contrôles de frontières, des contrôles migratoires, jusqu'à quel point ces dynamiques, en fait, ils créent cette division, mais aussi ce système d'illégalité.
The hacker all over.
be shattered.
This is where I was kidnapped for 4 months.
La plupart sont au moins de 18 ans, avec des signes de brûlure, de violence.
استقرار ليبيا إقليميا ينعكس بشكل إيجابي ليس فقط على ليبيا ولكن على كل دول الجوار بما فيها أوروبا.
المواساة والمواجهة هذه من بيعشة دي بفعل أرض الواقع ولدار فعل أرض الواقع على تراق
في أربع تقصير من حتى من الاتحاد الأوروبي في أربع تقصير من الاتحاد الأوروبي.
Ce rêve d'Europe de tous ces gens, cet Eldorado, hein. Pourquoi on se demande encore pourquoi, alors que la politique justement aux frontières se resserre de plus en plus, qu'est-ce qui les fait rêver encore pour venir en Europe?
Je pense que derrière tout ça, il y a une grande détermination. Le fait que tu as quitté ton pays, tu as quitté le camp des réfugiés où tu as vécu toute ta vie et tu veux aider ta famille, ou aider ta sœur, ou aider ta mère. Et le fait d'être en moitié de ton voyage, tu ne peux pas aller à l'arrière. T'es obligé de continuer. Donc il y a cette détermination aussi qu'il fait croire qu'en Europe, la vie va être une vie meilleure. Et je pense que ça, c'est un peu une détermination qui peut conditionner ou pas, mais c'est une détermination qui aide aussi à la survivance. Le fait de savoir que demain, ton avenir va être différent. Et c'est pas l'avenir que t'as vécu, c'est pas la vie que t'as vécu pendant des années dans les camps des réfugiés où t'avais pas d'eau, t'avais pas le droit d'étudier, t'avais pas le droit de bouger, pourquoi t'avais pas une carte d'identité et tu pouvais pas acheter un téléphone. Donc tu vois, le fait de rêver, je pense que c'est une sorte de force intérieure en fait, de pouvoir survivre à ces conditions. Assez dur, assez difficile, à cette violence. Et le fait de savoir que demain, quelque chose de mieux va arriver. Et demain, je peux avoir une vie comme tout le monde et je peux encore rêver. Et donc, je pense que c'est là que toute cette imaginaire était créée et continue à être créée. Bien sûr, les médias ont un rôle primordial sur ça. Et aussi les gens qui sont ici en Europe et qui retournent dans leur pays avec peut-être des voitures ou avec une certaine façon de montrer la réalité, que c'est différent, seulement pour ne pas briser cette rêve, tu vois. Donc je pense que c'est très difficile à dire à quelqu'un, oui, l'Europe, ce n'est pas le rêve, tu vois.
Ce qui est frappant aussi dans votre documentaire, c'est que vous montrez quand même cette solidarité entre ces migrants, finalement. Les manifestations qu'ils font tous ensemble, on sent qu'il n'y a pas de heurte, ils sont soudés. L'un des protagonistes le dit dans le film, plus on est ensemble, mieux c'est. Si on est tout seul, c'est fini, c'est fichu.
Oui, je crois que comme j'ai plusieurs fois essayé de transmettre, soit avec les images ou avec mon travail, ces gens sont les gens les plus courageux au monde que j'ai jamais rencontrés. Et c'est notamment cette force, cette communauté, cette partage dans des situations compliquées comme dans les centres de détention, dans les bidonvilles. Parfois, il y a 50 personnes avec un seul téléphone. Et ça, c'est le téléphone qui nous a permis de filmer les exactions, ou filmer les crimes de guerre qui ont été commis en Libye. Donc, assez précieux, ce téléphone. Et donc, je vois vraiment que dans ces conditions difficiles, la solidarité, c'est la seule force et la seule espoir qu'on peut trouver parmi nous, parmi la communauté où on partage tout, on partage le pain, on partage l'eau, on partage le téléphone, on partage nos vêtements et c'est ça qui nous aide à survivre en fait.
Ce qui est complexe également, c'est que il y a plusieurs groupuscules, il y a le gouvernement Haftar, il y a les milices pro-Haftar, il y a d'autres milices. Et du coup, on a l'impression vraiment, et c'est ça aussi qu'on sent dans ce film, et c'est pour ça que c'est violent, que ces migrants, en fait, c'est de la chair humaine, quoi. Ils sont jetés en pâture entre toutes ces milices qui se battent entre eux. C'est compliqué, la Libye.
C'est compliqué et c'est difficile aussi à la raconter pour un public européen qui, en fait, est habitué à des divisions blanches et noires. Alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs couleurs en Libye, plusieurs milices, plusieurs quand aujourd'hui on est pro-Haftar, demain on est anti-Haftar. Aujourd'hui on est pro-gouvernement alors qu'il n'y a pas de gouvernement. Aujourd'hui on ne veut plus de Gaddafi, hier on voulait Gaddafi. Donc c'est compliqué. Je pense que c'est aussi un pays difficile à raconter et où beaucoup de fois on cherche de... Tu vois, de raconter cette peut-être violence. Par exemple, j'étais à Tajoura, à Tarouna, c'est une zone en Libye où il y a des charnières, où il y a eu des exactions. Et en fait, ils sont des Libyens eux-mêmes, tu vois, ils se sont retrouvés dans des charnières. Plusieurs corps ont été retrouvés et encore une fois... il y a toute une manipulation derrière, tu vois, quand on ramène des journalistes dans des endroits comme ça, où on veut en fait inscrire une vérité dans ces contextes de guerre, de conflits. Et moi, j'ai appris qu'il n'y a jamais une seule vérité. Il y a plusieurs vérités, et notamment c'est ça la difficulté, tu vois. Essayer en fait de raconter toute cette diversité et toute cette violence à un public européen qui n'est pas assez intéressé peut-être à ces questions. Pourquoi, en fait, on a déjà marre de nos vies ici, right? Donc pourquoi s'intéresser à la Libye? Donc déjà, il y a ça. Et après, je trouve aussi que de plus en plus, on n'entend pas la voix des Libyens. Donc moi aussi, j'essayais de mettre dans mon film la voix des Libyens. Pourquoi je pense que aussi c'est important d'écouter ces jeunes Libyens. Pourquoi ils ont pris les armes pour combattre et pourquoi aujourd'hui ils se retrouvent à faire partie de ces milices. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé aussi, le sur des traumas que ces Libyens, en fait, ils gardent. Et donc oui, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment évoqué dans le film assez. Le film, c'est sur les centres de la honte, donc c'est sur les centres de détention, c'est sur la question migratoire. Mais c'est vrai que... qu'il y a beaucoup de questions encore qui sont cachées dans leur tête, dans les mots, qui ne sont pas des mots, mais qui deviennent des silences. Et donc, oui, je pense que c'est très important de travailler là-dessus.
Puis on sent aussi, et ce sera ma dernière question, que ceux qui essayent de venir en aide, le Haut Commissariat aux réfugiés, les gardes-côtes, en les sent perdus, en fait. Ils sont complètement dépassés par les événements. Ils ne savent plus quoi faire. Cette fameuse scène où ils sont sur, vous êtes sur, avec eux sur le bateau, c'est pas possible. Ils sont, il y a 600-700 migrants qui arrivent par bateau et ils ont juste un bateau pour transporter facilement 200 à 300. C'est frustrant quand même pour ces gens qui essayent de les aider, qui voient pas non plus l'avenir sous un bon oeil pour ces migrants.
Oui, je crois aussi que tous ces acteurs, comme le commissariat ou tu vois, les gardes-côtes, ont été aussi politisés par ces accords, non, cette politique. Donc le fait de dire qu'aujourd'hui le commissariat est là en Libye, donc les droits humains sont respectés, ben non, le commissariat il n'a même pas un accord avec les gouvernements, entre guillemets, libyens. Donc qu'est-ce que le commissariat il peut vraiment faire, tu vois? Donc moi je pense que je voulais vraiment interroger, tu vois, tous ces acteurs qui ont mis sur la table et qui on utilise aussi pour légitimer cette politique européenne. Et donc le fait que oui, le commissariat est là, mais il n'a pas vraiment grand chose à faire. Si les pays européens, ils n'acceptent pas des réfugiés, donc le Haut Commissariat ne peut rien faire, il ne peut pas évacuer des gens. Donc oui, est-ce que donner de la nourriture ou de lait à les enfants dans les centres de détention, ça suffit? Tu vois, c'est une question aussi sur les enjeux humanitaires, en fait. Aujourd'hui, les enjeux humanitaires, ça devient aussi des questions politiques. Ça devient aussi l'aide humanitaire aussi. Ça devient un enjeu politique et donc... voilà, je voulais notamment interroger aussi sur cette question et pas seulement d'un côté ou de l'autre, tu vois. Oui, et comme je cherchais de faire avec ce niveau narratif, tu vois, avec plusieurs narratives, et d'un côté, les Libyens ils disent c'est la faute des Nations Unies, et de l'autre côté, les Nations Unies disent c'est la faute des Libyens. Et chacun, chaque personne, il dit non, c'est pas ma responsabilité.
Pour parler peut-être d'autres projets que vous avez en cours là en ce moment, vous êtes en train de travailler sur autre chose?
Oui, c'est vrai que je suis vraiment intéressée par les questions aussi économiques, donc le fait aussi des accords sur la migration, mais aussi qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, questions énergétiques, les accords sur les ressources naturelles, sur le gaz, sur l'eau. Et j'aimerais en fait travailler sur la question de l'eau et de l'accès à l'eau. Pour moi, l'eau aujourd'hui, ça devient le pétrole du futur. Donc, ça devient de plus en plus un enjeu politique et j'aimerais vraiment travailler sur cette question.
E apprezziamo l'impegno delle autorità libiche nella lotta ai trafficanti di esseri umani e nel presidio delle frontiere marittime.
L'Union européenne, elle essaye de faire en sorte que ces gens ne sortent pas de Libye, ou en tout cas ne viennent pas en Europe.
This country can't shelter me, I know. All my hope is to Europe.
C'était un entretien avec Sarah Creta, réalisatrice du film documentaire Libye, les centres de la honte, qui était en lice dans la catégorie des films de plus de 40 minutes lors de la 29e édition du FIGRA, festival du grand reportage et du documentaire de société qui s'est déroulé à Douai du 31 mai au 5 juin.